Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menant. Nous sommes au chapitre 53, comme en 14. Alors, dans cette émission, nous allons aborder le basculement de l'Europe dans une guerre totale. Guerre dont les débuts ont marqué les esprits avec la course à l'armement. Nous parlerons de l'assassinat de Jaurès ou encore la bataille de la Marne, l'installation des tranchées. C'est parti pour cette émission. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, mon cher Marc.
Ravi également.
Ravi, mon cher Franck. La course à la guerre. Alors, Franck, avant le début de la Première Guerre mondiale, règne déjà une atmosphère particulière. Oui. Les grandes puissances se lancent dans cette course à l'armement.
Mais c'est vrai que ça, tout ça n'éclate pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Évidemment qu'il y a eu une préparation. Ça fait maintenant plusieurs émissions qu'on vous parle de cette revanche qu'attendent beaucoup de Français pour récupérer notamment l'Alsace et une partie de la Lorraine qui ont été données en 1871 à la Prusse, devenue l'Empire allemand, n'oubliez pas. Et qui est à la tête de l'Empire allemand ? Le terrible Bismarck. Il sait très bien, Bismarck, que les Français d'ailleurs préparent la revanche. Et de son côté, il essaie de préparer l'Allemagne à cette éventualité. Il y a en France un certain nombre de personnes, il y a des groupuscules, mais même il y a des partis qui sont pour la revanche. Et je pense notamment à la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède qui est fondée en 1882. Et cette Ligue des Patriotes, elle souffle sur les braises, si vous voulez. On veut en découdre, on veut aller casser du Bosch. Hein, c'est comme ça qu'on parle. Alors, il y a eu cette affaire Dreyfus qui a un tout petit peu mobilisé les attentions pendant quand même pas mal de temps. Et vous avez vu que pendant cette affaire Dreyfus, il est presque plus question des affaires internationales. Mais lorsque Bismarck s'en est allé, Bismarck a quand même quitté son poste en 1890, c'est tout le système d'alliance allemand qui vacille. Et quand je dis le système d'alliance allemand, il y avait là-dedans l'Angleterre, il y avait là-dedans l'Italie, qui va bientôt de proclamer sa neutralité en 1902. Il y avait, vous voyez, donc on pouvait se poser des questions. Il y avait notamment la Russie. L'empereur de Russie était en très bons termes avec celui qu'il appelait son cousin, l'empereur allemand. N'oubliez pas qu'on est à l'époque de tous ces empereurs, hein, tous ces kaisers, ces tsars, etc. Bon. 1893, vous voyez, on n'a pas attendu que les cendres de Bismarck soient froides depuis longtemps. 1893, c'est le rapprochement entre la République française et l'autocratie russe. Incroyable, cette alliance franco-russe à laquelle personne ne croyait, mais qui prend un peu l'Allemagne en tenaille quand même, il faut bien le dire. Et puis, alors le plus important, 1904, sous le règne du bon Édouard VII, qui est le meilleur des souverains que l'Angleterre ait jamais eu et qui était très francophile, sous le règne d'Édouard VII, c'est l'entente cordiale. Ce qui veut dire que d'un seul coup, notre République française, elle est beaucoup moins isolée qu'elle l'était auparavant. Elle est maintenant alliée des Russes d'un côté et des Anglais. C'est étonnant, une alliance avec l'Angleterre, après tout ce qu'on a raconté dans cette même émission sur ce vieil ennemi anglais.
L'ennemi de toujours.
Alors, il y a quand même des crises. 1905, grosse crise au Maroc. On voit quand même le Kaiser, on voit Guillaume II qui débarque à Tanger. Personnellement, ça fait beaucoup de bruit tout ça. Ça va être réglé par une conférence qui s'appelle la conférence d'Algésiras. Et c'est de la conférence d'Algésiras que va naître ce qu'on appelle la triple entente. Donc, cette triple entente, c'est un système d'alliance défensive extrêmement fort entre Londres, Paris et Saint-Pétersbourg. Là, maintenant, les choses sont dites. Et en face, on va voir naître un système d'alliance qu'on appelle la triplice entre Berlin, Vienne et Rome, c'est-à-dire entre l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et le royaume d'Italie, parce qu'à l'époque, l'Italie est un royaume. Alors, Je vous ai parlé de Déroulède tout à l'heure. Le successeur, c'est Maurice Barrès, hein, qui devient le patron de la Ligue des Patriotes en 1912. Il a avec lui des écrivains nationalistes comme Charles Péguy, dont nous parlera tout à l'heure Marc, comme bien entendu Charles Maurras de l'Action française. Et tous ces gens-là, je disais, continuent de souffler sur les braises. On est en train de se préparer à la guerre avec des armements de plus en plus sophistiqués, de plus en plus massifs, des budgets gigantesques et des hommes également. En 1913, on n'est pas très longtemps après une affaire qui s'appelle l'affaire d'Agadir, dans laquelle je ne vais pas entrer, mais qui de nouveau met en scène la question du Maroc. Eh bien, en 1913, on voit l'Allemagne disposer de 760 000 hommes qui sont disponibles sur les drapeaux au premier claquement de doigts. Et en face, que fait la France? Elle décide le service militaire de 3 ans. Quand on donne 3 ans de service militaire, ça veut dire qu'on est prêt à faire la guerre. On est vraiment tout prêt. On est sur une poudrière énorme, avec un système d'alliance très dangereux. On n'attend plus que l'étincelle. L'étincelle, ça peut être n'importe quoi. On commence à se douter qu'elle pourrait venir de la région des Balkans. Ben, effectivement, c'est à Sarajevo que tout va se jouer.
L'attentat de Sarajevo. On ne connaît pas à l'époque ce que c'est qu'une guerre mondiale. Mais le 28 juin 1914, tout bascule. Cet attentat de Sarajevo, pourquoi, comment il a fait tout basculer?
Alors, là encore, je ne vais pas compléter vraiment ce qu'a dit Franck, mais l'Autriche est associée avec la Hongrie. C'est presque, je dirais, un pays qui n'a pas de raison. Voilà, et il y a de grandes dissonances. Le roi, c'est François-Joseph, l'empereur. C'est François-Joseph. François-Joseph qui commence à être âgé. Alors, il a préparé sa succession. François-Ferdinand, un jeune qui a une vue à la fois traditionnaliste, mais en étant ouvert à des principes. Il constate que cet empire fait d'ethnies multiples. Il en compte 18. Il dit « c'est pas possible. Certaines veulent des prérogatives. Il faudrait que les uns et les autres disposent des mêmes droits. Il nous faut nous ouvrir à cela. » Alors, il n'est pas question pour lui d'envisager une démocratie en tant que telle, mais néanmoins, il voudrait des manifestations de vote, de suffrage universel pour palper les attentes des uns et des autres. C'est incroyable à l'époque. C'est un grand catholique fervent. Et il y a, dans les pays slaves, des divergences avec, d'un côté, alors c'est, prenons l'ancienne Yougoslavie, c'est-à-dire que vous avez à la fois les Serbes, les Croates, et tous ces...
Les Monténégrins.
Et tous ces gens sont dans, on peut dire, la haine, véritablement la haine. Et vous avez les extrémistes qui rêvent de créer une entité qui lui permettrait de régner, alors que cette partie de l'échiquier mondial appartient à l'Autriche-Hongrie. Il est demandé à François Ferdinand, en tant que responsable des armées, de mener une inspection du côté de Sarajevo. Il y va avec sa jeune épouse, Sophie Chotek. Là encore, il faut s'arrêter. C'est une histoire d'amour. Ah ! C'est rare à cet échelon. En général, on est plutôt dans les intérêts qui associent les cœurs. Là, non, c'est un véritable coup de foudre. Malheureusement, elle n'a pas, je dirais, le sang de référence. Par conséquent, c'est un mariage que l'on tolère.
C'est une roturière. Hein.
Voilà, c'est une roturière.
Vous imaginez la cour d'Autriche, le scandale invraisemblable.
Voilà. Donc, à chaque fois qu'elle paraît avec son époux, il n'y a pas les mêmes égards qui sont accordés. Tant et si bien que quand il va se rendre à Sarajevo avec madame, les armées, eh bien, ne seront pas convoquées pour former un peloton de sécurité tout au long de la route. On les installe au petit matin, enfin quand je dis au petit matin, il est 10 heures, dans une voiture cabriolet. Alors il est habillé en général, il a son grand chapeau de plumes de perroquet, elle sa belle robe de soie blanche. Et pour autant, il a comme une prémonition, il sait très bien que cet homme, en tant que tel, c'est pas lui qui est visé, mais ce qu'il représente. et qu'il risque de mourir. Il dit « Peut-être qu'un jour, je serai victime d'un attentat ». Et pour autant, il semble extrêmement serein quand il monte dans cette voiture largement ouverte avec des gens qui sont sur le bas-côté de la route. Néanmoins, les services secrets n'ignorent pas que depuis 10 jours, vous avez un groupuscule qui est là, un groupuscule d'agitateurs qui se montre dans les tavernes, extrêmement bruyant, qui pose des armes, des pistolets sur les tables et qui ne cache pas qu'ils sont pour une Serbie autonome. Comment ces individus-là peuvent rester en place? C'est inimaginable. Et pourtant, et ceux-là se sont placés à différents endroits avec les éléments dont ils disposent. Alors vous avez le premier qui s'appelle Cabrinovic. Cabrinovic a une sorte de petite bombe artisanale. Il attend, il entend le moteur de la voiture qui avance relativement doucement. François Ferdinand qui salue la foule, son épouse qui l'accompagne d'une main gentillette et enjôleuse. Et soudain, un élément qui part et qui vient frapper François Ferdinand. Il a le réflexe. Est-ce qu'il se rend compte ce dont il s'agit? Toujours est-il qu'il rejette l'engin. C'était une bombe qui explose un peu plus loin. Il y a des morts, il y a des blessés, mais eux sont totalement indemnes. Que ferait-on dans ces cas-là? Eh bien, on devrait accélérer, on devrait prendre la fuite. Eh bien, non. Il est tout serein, il demande que le défilé, si je puis appeler ça comme ça, parce qu'il y a des voitures devant, des voitures derrière, continue à cheminer. Et forcément, lorsqu'ils arrivent à l'hôtel de ville, ils sont royalement accueillis. Lorsqu'ils repartent, plutôt que de prendre le chemin qui était envisagé, ils décident d'aller rendre visite aux personnes qui ont été blessées. Mais le chauffeur n'a pas été prévenu qu'il y avait un changement d'itinéraire. Et quand le général Potiorek, qui est le gouverneur de la Bosnie, qui est à ses côtés, se rend compte qu'il prend la mauvaise direction puisqu'il n'a pas la bonne information, il lui faut faire demi-tour. Et à ce moment-là, un individu qui s'appelle Principe jaillit, il a l'arme à la main, il tire 2 fois. C'est dire que cet homme-là a de l'entraînement. Il abat d'abord la princesse, Sophie. Elle est touchée à l'abdomen et juste après, eh bien, c'est François Ferdinand qui s'écroule une balle dans le cou. On les conduit à l'hôtel de ville et dans le quart d'heure qu'il suit, ils sont morts. Vous imaginez ce qui se passe. On les arrête forcément. Les deux se retrouvent amenés à subir un interrogatoire. Mais ils ne veulent pas avouer qu'ils ont agi pour la Serbie, sauf que l'un d'entre eux finit par dire qu'en réalité, eh bien, ils ont été armés grâce au gouvernement serbe. Et là, eh bien, ça crée forcément une tension diplomatique. Ça passe par l'Allemagne, ça passe par l'Autriche. François-Joseph, qui a plutôt déjà une humeur belliqueuse, décide de porter un ultimatum aux autorités serbes. Et c'est comme ça que cet ultimatum est repoussé, que l'Allemagne s'associe à l'Autriche et que la guerre est déclarée.
Les Serbes étant bien slaves, ils sont alliés des Russes. Donc c'est comme ça que les deux alliances risquent d'entrer en conflit. C'est-à-dire que derrière l'Autriche, il y a l'Allemagne et derrière la Serbie, il y a la Russie. Et vous voyez, nous, on est alliés des Russes, hein, au passage.
Et voilà, c'est ça. N'oubliez pas ce que Franck nous a raconté tout à l'heure. Cet accord qui existe entre la France et la Russie, les Russes et l'Angleterre, n'oublions pas. Et nous voilà. Eh bien, c'est fatal. Forcément, l'Allemagne finit par déclarer la guerre à la France. La France est obligée de mobiliser. Et le grand carnage commence début août avec une armée allemande qui est particulièrement bien préparée. Mais en revanche, face à elle, il y a cette mobilisation d'un patriotisme inouï. On les connaît, nos soldats, ils partent là, fiers, certains, de prendre leur revanche de 1870. On va les écraser, ça va durer quelques jours. Hélas, 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 nous sommes là pour raconter la suite.
On va parler d'autre chose, parce qu'il y a eu l'assassinat, entre autres, de Jean Jaurès. Signe que le monde, et plus précisément l'Europe, est en proie à une crise profonde, Jean Jaurès est assassiné quelques semaines seulement après cet attentat de Sarajevo.
Et on est en droit de se poser la question de savoir si l'assassinat de Jaurès a changé quoi que ce soit à la course qui paraît inéluctable des événements. Ça, c'est une grande question qu'on n'a peut-être pas suffisamment le temps de poser d'habitude, mais je pense que c'est fondamental de savoir, est-ce que les événements ont lieu quoi qu'il arrive? Est-ce qu'il y a des espèces de forces, des courants profonds qui portent les événements? Ou est-ce que ce qui peut arriver aux individus, aux personnes, peut changer le cours de l'histoire? Vous venez de voir quand même que l'assassinat de l'archiduc héritier d'Autriche, François Ferdinand, et de son épouse Sophie Chotek, a eu des conséquences majeures dans le jeu des alliances. Si, imaginons que Gabriello Princip était moins bon viseur, si je puis dire, et que la balle soit passée à côté de l'archiduc, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la Première Guerre mondiale. Alors,
imaginons qu'après la première bombe qui tombe dans les mains de l'archiduc, il n'ait pas le réflexe déjà de la renvoyer, ou même que l'on prenne les mesures de sécurité qui s'imposaient. Il n'y a plus rien.
Et c'est vrai que c'est toute la question de l'impact de l'individu dans l'échiquier mondial.
C'est ça. Et les gens qui ne croient pas à cet impact vous disent « Mais si ça n'avait pas été François Ferdinand, ça aurait eu lieu un mois et demi plus tard et ça aurait été un autre événement. » Ce qui est très possible aussi. Vous voyez comme c'est compliqué.
Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, c'est une poudrière des années.
Donc si ce n'est pas cette étincelle-là qui met le feu aux poudres, ce sera une autre. C'est très probable aussi. Complexe. Hein. Et dans le cas de Jean Jaurès, c'est la même histoire. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes en France qui pouvaient... Est-ce qu'on peut dire empêcher la guerre? C'est très difficile à dire. Mais qui pouvait la freiner considérablement, ça c'est sûr. Un très grand homme politique qui est au cœur du système de la classe politique française, qui était un homme de gauche extrêmement introduit, qui s'apprête à devenir le président du Conseil et qui s'appelle Joseph Caillaux. Manque de chance, son épouse est allée tuer à bout portant le patron du Figaro dans son bureau, M. Calmette. Bon, ça tombe mal, ça c'était au printemps. Et le procès Caillaux, il a lieu pile au mois de juillet 1914. La France, d'ailleurs, ne parle à l'époque que de ça. C'est pas très fréquent que l'épouse d'un ministre aille tuer le patron du Figaro en même temps.
Hein. C'est sûr.
Pour reconnaître. Mais parce qu'elle était outrée qu'on ait pu attenter à l'honneur de sa famille. Bon, bref, c'est toute l'histoire de Mme Caillaux. Donc, si je puis dire, out Joseph Caillaux, lui qui aurait vraiment... Alors lui qui était un pacifiste, qui voulait s'opposer profondément à cette guerre, qui aurait peut-être pu avoir un impact. Parce qu'imaginez que la France ne veuille pas respecter son alliance avec la Russie, que la France fasse pression avec l'Angleterre sur le tsar pour que le tsar ne réponde pas à l'appel des Serbes. Il n'y aurait pas eu de Première Guerre mondiale, là, pour le coup. Là, c'est beaucoup plus sûr encore que l'histoire de la balle qui a atteint l'archiduc. Vous voyez, bon... Il n'y a plus de Caillaux. Et puis l'autre homme, alors lui, il a moins de pouvoir, mais il a une influence considérable. C'est le grand patron du socialisme à l'époque, c'est Jean Jaurès. Le patron, l'incarnation même du journal L'Humanité. Jean Jaurès, alors je ne vais pas vous refaire la carrière.
Le créateur même de L'Humanité.
Et le créateur, bien sûr. Et Jean Jaurès, très grand tribun, un homme extraordinaire, d'une culture éblouissante, d'une humanité profonde, comme le titre de son journal, et en même temps, convaincu de l'alliance ouvrière, de l'internationale ouvrière, convaincu qu'il n'y a pas de frontières pour les pauvres gens qui, de toute façon, sont exploités et sont maintenus dans des conditions honteuses, quel que soit le pays dont on parle. Et donc, lui, dit-il, il sait très bien qui va déclarer la guerre, ceux qui possèdent, et qui va la faire, ceux qui obéissent. Et ceux qui obéissent, s'ils se mettaient tous d'accord de tous les côtés de toutes les frontières, eh bien, il n'y aurait pas de guerre. Voilà la... si on peut dire, résumer un peu, l'idée de Jean Jaurès. Et ce Jean Jaurès, il va se battre entre le 28 juin et le 28 juillet. Pendant un mois, on le voit qui multiplie les interventions. Encore le matin du 31 juillet. Là, ça commence à chauffer, si je puis dire. Hein. Ça y est, on est déjà dans le refus de l'ultimatum à la Serbie.
Eh bien, on le voit qui va à la Chambre des députés, qui a rendez-vous au ministère des Affaires étrangères, qui se déploie, qui... Et il a prévu ce soir du 31 juillet, il rentre à son bureau qui est rue Montmartre à l'Humanité, et il se dit « je vais écrire l'article qui va être en quelque sorte le pendant du j'accuse d'Émile Zola ». On va faire un article en pleine page qui va appeler tous les ouvriers de partout à s'asseoir et à faire la paix, quoi, vraiment. Bon. Mais puisqu'il pense qu'il va y travailler toute la nuit jusqu'à l'impression du journal à 8h le lendemain matin, il se dit quand même...
Je vais faire une petite parenthèse. L'opinion publique, à ce moment-là, pense quoi ?
L'opinion publique n'a pas encore conscience de l'importance et de l'imminence du danger. Je pense qu'on peut dire que...
Il y a quand même cette fibre patriotique telle
chez une partie de l'opinion, voilà, ouais. Qui est à peu près peut-être un cinquième ou un quart de l'opinion.
Donc vous êtes en train d'expliquer qu'il est un peu seul.
Il est loin d'être seul, mais l'opinion publique, on est en plein été. La bonne société est en vacances, les gens plus modestes, ils profitent de l'été comme ils peuvent. On a beaucoup parlé de cette
affaire. Il n'y a pas de
vacances
à l'époque.
Non, il n'y a pas de congé, mais il y a des vacances pour les gens qui peuvent, bien sûr. Il y en a même de très longues à l'époque, qui durent 3 mois.
Oui, et puis personne ne croit à une guerre, de toutes les façons.
Et voilà, on n'y croit pas. On ne veut pas y croire. On commence à y croire un peu, mais on se dit, on va faire une opération. Après tout, on a une armée très puissante. On va rétamer les Allemands en quelques temps. On va récupérer l'Alsace et la Lorraine, et dans 2 mois et demi, c'est fini. Bon.
Je vous prie de m'excuser.
Non, mais vous avez raison de poser cette question, parce que c'est vrai que quel est l'avis de la France à ce moment-là ? Donc, en tout cas, Jean Jaurès, lui, il ne veut pas parler à la France. Il veut parler à tous les ouvriers de tous les pays, notamment au prolétariat allemand, autant qu'au prolétariat français. J'emploie la terminologie des socialistes de l'époque. Hein. Il n'y a pas encore de communistes. Ça va venir dans la prochaine émission, une des prochaines émissions. Oui. Donc, Jean Jaurès se dit quand même, avant d'attaquer mon grand article qui va me prendre 5 ou 6 ou 7 heures d'écriture avec mes rédacteurs, etc., on va descendre se restaurer. On va faire un bon repas et puis on aura des forces parce qu'on va passer une nuit blanche. Il descend au Café du Croissant, qui est là au coin de la rue, juste en bas de l'Humanité.
Oui, je le vois ici.
Le Café du Croissant, vous pouvez le voir encore parce qu'il existe encore.
Ah oui.
Et l'endroit où ce que nous allons raconter s'est passé existe encore. Il y a même la table de Jean Jaurès qui est sous verre dans le Café du Croissant, à l'heure où je vous parle, rue Montmartre. Et donc
il va faire bonbons.
Il va s'installer en tout cas.
C'est le côté, vous savez, dans les rédactions, on se retrouve, le moment un peu gaillard, le moment d'enthousiasme.
Sauf que là, on est tendu quand même.
Mais il y a ce volontariat.
On prend un peu d'énergie, commencer à écrire son papier.
Il s'installe, il est 20h30, il s'installe. Et là, il y a un type qui s'appelle Raoul Villain, qui est un nationaliste, parce que j'ai peut-être été un peu rapide tout à l'heure en vous parlant de Desroulets,
de
Maurice Barrès, etc. Mais il faut savoir qu'il y a un courant nationaliste qui n'est pas majoritaire du tout en France, mais qui est très puissant. Il y a des gens qui ne pensent qu'à une chose matin, midi et soir, c'est faire la guerre. Effacer la honte de 1870-71, liquider l'Empire allemand, reprendre l'Alsace et la Lorraine. Enfin bon, c'est le nationalisme qui est chauffé à blanc, si on peut dire. Et il y a l'un de ces types-là qui s'appelle Raoul Villain, il est venu exprès. Non, mais c'est une histoire de fou. Il débarque à Paris pour tuer Jaurès. Et il attend, il sait où est le journal L'Humanité. On lui a dit, mais monsieur Jaurès est parti dans son bureau. Très bien. Il attend, il tourne. Enfin, vous voyez comment fait un assassin. Alors là, c'est pas un assassin par hasard. C'est le type qui veut tuer. Et qui va tirer 2 balles lui aussi. Il y en a une qui va rentrer dans la boiserie. On voit toujours, actuellement encore, au Café du Croissant. Et puis l'autre qui va aller se loger dans le crâne de Jean Jaurès. Vous imaginez, j'allais dire le scandale. C'est une émotion considérable. Tous les journaux, alors là, gauche, droite, peu importe, le lendemain matin, tous les journaux, on a tué Jaurès. Ils ont tué Jaurès. Jaurès est mort. Achetez. Parce qu'il y a les vendeurs à la criée à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on a compris l'importance de cette mort de Jaurès ? Parce que c'est comme si, quelle que soit l'importance du verrou en question, c'est comme si le dernier verrou venait de sauter et que là maintenant, plus personne ne va pouvoir s'opposer à la guerre. Et à telle enseigne, et ça paraît fou, que quelques jours, 72 heures après la mort de Jean Jaurès, à la demande du président de la République, qui est un homme conservateur qui s'appelle Raymond Poincaré, on va voter l'union sacrée, c'est-à-dire que tout le monde, et alors là quand je dis tout le monde, c'est toute la classe intellectuelle, toute la classe politique, les journalistes, l'opinion dans son ensemble, tous les partis, tous les syndicats, y compris les socialistes eux-mêmes, tout le monde va dire, on met de côté nos vieilles querelles et maintenant, comme un seul homme, nous allons nous battre et nous battre à mort contre l'Allemagne. Je pense que si Jaurès avait encore été là néanmoins, ça ne se serait pas passé tout à fait de la même manière.
Notons que Villain, forcément, est arrêté. Ouais. Il sera en prison. Il est jugé après la guerre et il est amnistié.
Il est acquitté.
Acquitté.
Oui, enfin, c'est-à-dire que il n'est pas amnistié, il est acquitté. Le jury, c'est une histoire de fou. Le jury considère qu'en tuant Jaurès, à un moment de patriotisme exacerbé, et alors que Jaurès était en quelque sorte, par son pacifisme, une espèce
il
de
a
traître,
sauvé la France,
il a rendu service à la patrie. Incroyable. C'est ce que l'on dit, c'est ce que pense le jury.
Et je note au passage quand même qu'il y a un patron du Figaro qui s'est fait tuer. Et puis voilà,
et le patron d'Humanité, oui.
La presse est quand même un peu lascive.
La presse est au cœur de l'affaire. Hein.
Oui. Exactement. Fermons la parenthèse. Dans un instant, on va marquer une petite pause. On va parler de la bataille de la Marne. Alain Fournier, Peggy, on en parlera avec vous. La guerre des positions. Merci d'avoir planté ce décor. On continue comme en 14. On marque une petite pause. À tout de suite. Deuxième partie de la belle histoire de France, chapitre 53, comme en 14, avec Franck Ferrand, Marc Menant. Dans cette deuxième partie, on parlera de la guerre de position, on parlera d'Alain Fournier, de Peggy, on parlera de la bataille de la Marne. Mais première question, messieurs, qui sont les Français mobilisés en 1914?
C'est l'ensemble, et Franck l'a précisé tout à l'heure. C'est inimaginable, mais 3 ans, vous êtes parti pour 3 ans.
De service militaire.
Et puis vous avez la réserve. Quand je vais évoquer Peggy tout à l'heure, il a 41 ans, officier de réserve. Fournier, 38 ans, officier de réserve. Et tous, même s'ils avaient l'âme un peu pacifiste, comme Fournier, partent, je dirais, avec un esprit de gloriole. Il n'y a pas une seule hésitation.
Oui, alors, la seule chose, c'est bien sûr, hein, on raconte toujours à Berlin, avec la fleur au fusil, etc. Quand même, les travaux les plus récents de l'historiographie, les travaux de Jean-Jacques Becker ou d'autres, ont montré à quel point il y avait quand même beaucoup de réserves, c'est le cas de dire, chez ces combattants qui partaient au feu. Il y avait un vrai patriotisme, une vraie conscience de se sacrifier pour la patrie, mais pour quelques énergumènes qui partaient en klaxonnant et en chantant, il y avait énormément de gens qui partaient en pleurant et le cœur lourd. Il faut bien en être conscient.
Il y avait une sorte de contagion. Il faut lire Céline. Oui. Céline voyage au bout de la nuit. Il est là, complètement, je dirais, étranger à ce qui se passe, comme toujours, Céline. Et puis, soudain, passe devant lui une sorte de meute patriotique qui tambourine et qui dit « Camarade, il faut y aller !» Et il se laisse emporter par le feu, il raconte ça. C'est extraordinaire. Comment vous êtes happé par un enthousiasme auquel vous étiez étranger quelques secondes auparavant.
Quelques chiffres. 3 600 000 mobilisés en France, 4 millions en Allemagne. Vous imaginez ? Il faut savoir qu'en Allemagne, il va falloir se battre sur 2 fronts. Parce qu'eux, ils ont le front de l'Ouest avec nous, mais le front de l'Est avec les Russes, hein, quand même. Donc c'est lourd pour un empire comme l'Allemagne. Alors, quand on dit 3 millions, un peu plus de 3 millions et demi de mobilisés en France, il y a 1 300 000 combattants. Ça, c'est très important. Parce que ça aussi, c'est une chose sur laquelle on ne revenait pas. Tant qu'il y avait des survivants, on évitait de parler de ça, évidemment, pour des raisons évidentes. Mais il faut bien comprendre qu'il y avait, d'un côté, les plus jeunes, les plus costauds, si je puis dire, qu'on envoie vraiment au front, au feu. Et puis derrière, il y a toute la réserve, il y a les dépôts, il y a toutes les, comment pourrait-on dire, les territoriaux, etc. C'est-à-dire des gens qui souvent sont un peu plus âgés ou qui, par leur statut social, sont un peu plus protégés. Quand je dis statut social, je ne parle pas du niveau social, je parle du métier qu'ils exercent, etc. Qui sont chargés de famille aussi, qu'on protège un peu plus, qu'on expose un peu moins. Donc, 3 millions et demi, un peu plus de 3 millions et demi de mobilisés et 1 300 000 combattants. Alors là, ceux-là, ils vont assez vite voir l'épreuve du feu parce que les premiers jours de la guerre sont incroyablement violents avec des morts, mais en quantité. Il a fallu 17 jours seulement pour mobiliser tout ce monde-là. Ce qui veut dire que le plan était bien fait quand même. Le 18 août, tout le monde était sous les drapeaux quand même.
Alors on n'est pas spécialement bien équipé. Et puis soudain, on s'aperçoit de l'hérésie de la tenue.
Mais on croyait l'être.
Ah oui, non mais attendez, c'est-à-dire que l'on apparaît avec le pantalon Garance. Vous
c'est-à-dire
êtes là,
rouge vif comme la cravate de Marc.
C'est comme si on vous avait peint et dire aux Allemands, vous avez les cibles, vous n'avez plus qu'à tirer. forcément que cela va faciliter l'hécatombe.
Eux, ils sont en feldkraut, c'est-à-dire en vert de gris, et ça se fond beaucoup mieux dans le décor, notamment bientôt quand va se retrouver dans les fameuses tranchées, dans la glaise et dans la boue. On n'en est pas encore tout à fait là. En 14, on n'en est pas arrivé encore dans cette guerre de position. Ça va être le début de la guerre de position.
On en parle tout à l'heure.
Un chiffre juste, deux petits chiffres si vous voulez, parce que c'est important de poser les choses. En tout, sur l'ensemble de la guerre, hein, de 14 à 18, il y aura eu en France 8 410 000 hommes mobilisés, vous imaginez, 8 410 000. Et sur ces 8 410 000, 7% de soldats qu'on appelait indigènes, c'est-à-dire qui viennent des colonies. Voilà deux chiffres qu'il faut avoir à l'esprit.
À la tête de l'armée française, le général Joffre. Alors lui, c'est un va-t-en-guerre comme il n'est pas permis. Il n'est pas question de reculer, les gars. On y va, on y croit. Si ça tombe à côté de vous, eh bien vous baissez un peu la tête et vous continuez de courir devant. Et c'est là où on va voir très rapidement, malheureusement, qu'on ne peut pas tenir des positions dans des conditions pareilles et que c'est un reflux. Les uns et les autres, même quand ils ont l'audace, le courage, l'abnégation, eh bien, ils sont obligés de fléchir, ce qui fait que nous sommes très rapidement dans une situation de défaite.
492 000 morts pendant les 5 premiers mois de la guerre, c'est-à-dire en 1914. Avant le 31 décembre 1914, il y a eu 492 000 morts. Ça veut dire 900 Français par jour en 14. Vous verrez ce qu'il en advient ensuite quand on arrivera à Verdun, etc. 900 Français par jour, 1300 Allemands par jour. Alors vous allez dire, mais on tue plus d'Allemands que de Français. Oui, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a les deux fronts en Allemagne. Voilà.
On va s'arrêter. Vous
non.
On a beaucoup de choses à dire.
Anecdote, mais gagnons du temps.
Très oui, bien. Parce qu'on va parler maintenant de la bataille de la Marne. C'est parti. Franck Ferrand, évoquons avec vous la grande bataille de 1914, celle de la Marne, avec notamment ce soutien logistique des taxis parisiens. Oui. Pourquoi vous souriez aux forces françaises?
C'est la petite histoire qui explique la grande, comme c'est toujours. Ça, qu'est-ce ça, qu'on a retenu? On a retenu les taxis de la Marne, qui ont joué un rôle extrêmement mineur dans l'affaire, mais en même temps très symbolique et
voilà,
très beau.
C'est ça, voilà.
Vous allez voir, vous allez comprendre cette histoire. Alors, juste un mot quand même, pour dire que certains des gens qui nous regardent doivent se dire, mais... c'est pas la Première Guerre mondiale qui nous raconte. Attendez. On est en train d'y entrer dans la Première Guerre mondiale. Hélas, elle va devenir beaucoup plus lourde encore et beaucoup
longue.
Plus affreuse. Et l'image, vous savez, de ces marmites qui vous tombent partout dans les tranchées, de ces gens qui enjambent les cadavres au milieu des rats dans la pluie, dans la boue. Malheureusement, on y viendra la fois prochaine dans cette émission qu'on va appeler la Grande Guerre.
Je fais une petite parenthèse. Pourquoi vous avez appelé tous les deux cette émission comme en 14?
Parce que c'est la fameuse expression, on repart comme en 14.
Voilà. C'est toujours cette image d'un enthousiasme patriotique, national, où personne ne fléchit.
Alors,
il n'y a pas de tir au cul, comme on dit dans l'armée.
Je vous en prie. Venons-en maintenant à cette bataille de la Marne.
Je vois bien Marc chantant « Le pinard, c'est de la vinasse ».
Avec mon verre d'eau.
Fait du bien par où ce que ça passe.
Voilà. Avec mon verre d'eau à la main.
Il vaut mieux sourire sur la tragédie.
Alors,
de l'histoire.
Je vais vous parler d'un personnage dont on a eu l'occasion de croiser l'ombre ou la silhouette dans quelques émissions précédentes. Pas forcément à son avantage, parce que c'était quand même un sacré... c'était un général à grande poigne, notamment dans les affaires coloniales. C'est le général Gallieni. Ce Gallieni, c'est un homme qui est à la retraite normalement. Il était parti vivre tranquillement sa retraite à Saint-Raphaël quand on le rappelle, parce que il y a cette mobilisation. Et évidemment, les gens qui ont l'immense expérience qui est la sienne, inutile de vous dire qu'on l'a évidemment...
On les privilégie, bien sûr.
Donc Gallieni est de retour. Il vient d'apprendre, il s'est passé deux choses terribles. Hein. Quelques semaines avant... tout ce que nous allons raconter, il vient de perdre sa femme chérie. Et donc c'est un homme très marqué, très, il est sexagénaire, hein, il a 68 ans, mais il en paraît bien davantage, parce qu'en plus il est malade, il a un cancer de la prostate. Donc vous voyez que c'est pas un retraité qu'on rappelle, qui est veuf et qui se bat contre un cancer, évidemment c'est pas les meilleures conditions, mais... comme c'est un grand militaire, on lui confie un poste très important. Il est gouverneur militaire de Paris, on ne plaisante pas. C'est à lui qu'on confie la capitale. Or, on sait très bien que les Allemands n'attendent qu'une chose, c'est de revenir à Paris, dont ils ne sont partis qu'à regret en 1871.
Souvenons-nous.
Et il se rapproche.
Parce que Ce qui est extraordinaire, c'est que von Schlieffen, qui était le grand chef d'état-major allemand du tournant du siècle, a monté un plan qui est un plan d'offensive extrêmement violent. On attendait que les Allemands... Enfin, on avait des idées sur ce qu'allaient faire les Allemands, mais von Schlieffen a décidé de violer la neutralité belge, de traverser la Belgique et de débarquer en masse à toute vitesse et de faire un grand mouvement enveloppant pour aller prendre les armées françaises qui étaient en train de se masser contre l'Allemagne à revers. Voilà l'idée de ce qu'on appelle le plan Schlieffen. Il se trouve que Schlieffen meurt juste avant la guerre, et c'est que son successeur, le général von Moltke, qui prend la suite, mais qui va appliquer, j'allais dire à la lettre, pas tout à fait à la lettre, qui va appliquer le plan Schlieffen. Donc voilà le général Schlieffen, von Schlieffen. Donc Moltke dirige
ses troupes
dans une espèce d'offensive très 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 violente. Et nous avons, nous, un général en chef, qui est donc le général Joffre, comme disait Marc, qui se dit... Laissons les Allemands se fatiguer, n'allons pas bêtement tuer des quantités d'hommes tant qu'on peut les laisser entrer. Quand ils seront loin sur le territoire, qu'ils seront bien fatigués, alors oui, on les repoussera, on attaquera. Voilà l'idée, en tout cas, du général Joffre. Comprenez bien qu'on est encore dans des idées de guerre de mouvement à l'époque. Oui. On n'a jamais quasiment connu que ça.
Oui.
Bon, donc... Voilà les Allemands qui débarquent, la première armée allemande, la deuxième armée allemande. Or, il se trouve que tous les princes de la maison de Hohenzollern, les cousins, les fils, les neveux, enfin toute la famille du Kaiser, se trouvent dans la deuxième armée. Donc, au grand état-major, von Kluck, qui dirige l'ensemble de l'état-major, donne à von Moltke l'ordre d'attendre la deuxième armée pour prendre Paris. Donc les Allemands vont en quelque sorte perdre du temps. Et ce qui est incroyable, c'est que von Moltke va donner l'ordre, du coup, de poursuivre vers le sud-sud-est. Pourquoi ? Parce que devant, il y a les armées du général French, qui est un Anglais. N'oubliez pas que nous sommes alliés, nous, aux Anglais. Et Lord Kitchener, le ministre de la Guerre en Angleterre, a donné l'ordre... de se retirer le plus possible. Que font les Anglais, pardon, mais dans cette affaire, ils se sont quand même carapatés devant les Allemands. Donc, les Allemands continuent vers le sud. Et, chose incroyable, Gallieni, lui, attend l'invasion de sa ville. Il attend l'invasion de Paris. Et il réclame tous les jours, trois fois par jour, télégramme au grand état-major, donc au grand quartier général, au général Joffre. Il me faut des hommes. Joffre ne veut même pas en entendre
mais
parler.
Pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas ou bien
parce qu'il estime que Paris est perdu. Le gouvernement est allé s'installer à Bordeaux. Il faut quand même le préciser. Hein. On considère que Paris, ce sera un dommage collatéral d'une certaine manière. Et, incroyable, Gallieni à Paris récupère des bataillons, un par un, de l'armée, de la 6e armée, qu'on appelle l'armée dirigée par Monoury, qui vont nourrir les forces de la capitale, ce qui fait que finalement le général Gallieni se retrouve à la tête d'une armée relativement solide. Or, 1er septembre, 2 septembre, 3 septembre, les Allemands sont là, ils vont entrer dans Paris, et à midi, on lui dit « mais mon général, apparemment, ils poursuivent leur route, comment ça les poursuit ?» Eh bien, ils ne foncent pas sur Paris, ils ont l'air d'aller... plus au sud. Ça vous rappelle rien, ça ? Ça vous rappelle pas l'invasion des Huns avec Attila et Sainte-Geneviève en 451 ? Ça nous ramène loin, ça. Mais vous rappelez, on avait raconté ça. Eh bien, c'est un peu la même histoire. Et Gallieni, alors là, il a oublié qu'il est malade, il a oublié qu'il est veuf. Là, il est complètement électrisé devant ses cartes et il dit « Je n'ose y croire ». Il va répéter ça à tous les gens, nous disent qu'autour de lui. « Je n'ose y croire ». Mais oui, c'est-à-dire que, incroyable mais vrai, von Moltke n'a pas obéi aux ordres du grand état-major. Eh bien, que va faire Gallieni ? Il ne va pas obéir aux ordres de Joffre, lui non plus. Il se dit que c'est le moment d'attaquer les Allemands sur leur flanc droit, puisqu'ils sont en train de passer à l'est de Paris. On va déporter la 6e armée là-bas, on va les attaquer. Donc, quand même, la différence, c'est que Gallieni téléphone au général Joffre. Et il lui dit, il faut faire les... Et Joffre lui dit, il n'en est pas question, je vous l'interdis, etc. Gallieni lui dit, je vais attaquer quand même. Et là, Joffre se dit que s'il ne veut pas être ridicule, il va falloir qu'il porte secours à Gallieni. Et voilà comment on décide d'aller bloquer les Allemands sur la Marne. Une bataille comme on n'en a jamais vu, gigantesque bataille, en hommes, en déploiement, en matériel, et notamment en artillerie. On a une artillerie légère côté français, plus lourde du côté allemand. On rectifiera ça dans le temps, hein, dès 1915, mais... C'est quand même un affrontement terrible. Le problème, c'est qu'il va falloir apporter maintenant des secours. Il va falloir apporter des troupes neuves sur cette Marne, sur la rivière. Et donc, c'est là que Gallieni... On dit, mais comment pourrait-on... On dispose de la 7e division de la 4e armée. Peu importe, mais cette division, elle est là, disponible à Paris. Gallieni dit, il faut l'envoyer vite, vite, pour bloquer les Allemands autant qu'on peut. Mais comment faire? Mais c'est là qu'on va utiliser les taxis. Gallieni dit, on va utiliser les taxis. Alors, il y a un de ses généraux qui dit, mais mon général, c'est bien joli les taxis, mais qui va les conduire? Les chauffeurs de taxi, dit-il, je réquisitionne non seulement les voitures, mais aussi les chauffeurs.
Et voilà. Il n'empêchera pas d'envoyer la facture.
C'est vrai.
Ils seront payés.
Les taxis parisiens vont envoyer leur facture, évidemment. Et donc, les chauffeurs de taxi, ils seront 1000 en tout. Alors, 600 dans une première salve, en tout un millier. Quand je dis taxi, il y a quand même beaucoup de voitures militaires là-dedans. Hein. On a un petit peu arrangé les choses. Mais en tout cas, tous les taxis disponibles dans les rues de Paris ont été mobilisés par les agents de police. Et les voilà qui vont transporter cette 7e division, qui ne fera peut-être pas la différence, mais qui va symboliser la résistance, qui va symboliser le fait d'arrêter la progression des Allemands. Cette fois, on les bloque. C'est la fin de la guerre de mouvement, c'est le début de la guerre de position. Première victoire française, car c'est ce qu'écrit le général Joffre lui-même dans son télégramme. Il s'agit d'une victoire incontestable, donc victoire de la Marne pour les Français. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la presse, c'est bon pour l'opinion publique. Et puis surtout, ça c'est moins bon, début d'une guerre de position qui va s'éterniser pendant 4 ans et qui va être un véritable enfer.
Alors si on a le temps, d'ici la fin de cette émission, on va me dire un petit mot sur la guerre de position qui va commencer. Alors juste avant, une page maintenant sur ceux qui sont tombés au feu, Alain Fournier et Peggy. C'est le destin brisé de deux grands auteurs, deux grandes personnalités.
Alors il faut savoir que les intellectuels ne restent pas dans l'indifférence par rapport à cette agitation patriotique.
Ils ne sont jamais indifférents, les intellectuels.
Non, mais parfois, ils ont un peu de mollesse. Disons qu'ils fleurissent dans les discours, mais sont un peu plus timides dans l'action. Et ce qui est extraordinaire, on avait évoqué dans l'émission précédente la Belle Époque, ce côté exubérant d'un Paris qui vit dans la joie, un Paris où on a toute la créativité. Et parmi ceux-là, vous avez les artistes à Montparnasse et des étrangers. Marc Chagall qui est arrivé de Russie. On a également Blaise Cendrars qui est arrivé de Suisse. On a
Picasso
et tous ces gens sont là. Et Apollinaire. Et alors, Picasso sera le premier à dire « Moi, j'ai une santé fragile, je ne peux pas vraiment me mêler à l'histoire. »
Il était espagnol.
Mais Blaise Cendrars est le premier à dire « Nous devons quelque chose à la France. Nous aimons la France. Cette France nous a accueillis pour elle. Eh bien, nous devons être capables de mourir. » Il fait rédiger un texte avec son camarade Canudo, qui est un Italien. On les affiche partout, on les voit s'installer au coin de la rue Lafayette. Une petite table de bistrot, et devant eux, des lignes qui se forment. Ce sont tous les étrangers qui sont là, qui goûtent cet esprit français, qui se laissent emporter par ce chatoiement et de notre langue, de nos mœurs, de notre principe de liberté. Tous veulent monter au front, et ils remplissent les formulaires qu'ils adresseront au ministère de la guerre. Il y en a un qui se présente. C'est notre poète, eh oui, Apollinaire. Il est russe-polonais et on le refuse, il est trop jeune. Alors il va jusqu'à Nice et à Nice, il finit par obtenir d'entrer dans la Légion étrangère. Revenons maintenant à nos Français. Mais c'est pour montrer que ces intellectuels, les uns et les autres, sont dans cette fougue. Charles Péguy. Péguy, patriote, patriote jusqu'à la moelle. Au départ, il n'était pas spécialement catholique, mais il est devenu un homme de foi. Il prend son uniforme, lieutenant de réserve. Il sera au front et il se retrouve à un lieu incroyable. Moi, j'aime bien ces synchronicités, même quand elles sont sinistres. On se retrouve au carrefour d'Iverny-la-Bascule et de Chocossin. La bascule, c'est terrible. Et nous avons notre Péguy qui est là dans son uniforme de lieutenant, bien repérable. et qui a avec lui sa cohorte. Face à eux, à quelques cent mètres, dans un bois, les Allemands. Et là, il appelle les uns et les autres à se dresser. Et il leur dit soudain, « Tirez, mais tirez donc, bon de Dieu !» Et une salve lui répond. Il s'écroule. Il a juste le temps de souffler. « Ah, mes enfants. Ah, mes enfants. Peggy vient de mourir. » Et pour autant, ses amis disent, on ne le pleurera pas. On ne le pleurera pas parce qu'il était volontaire pour cela. Et Barrès écrira, il célébrait la grandeur morale, l'abnégation, l'exaltation de l'âme. La mort est comme une récompense pour lui. Et puis, il y a Alain Fournier. Il a publié son premier roman l'année précédente. Le grand monde, il n'a même pas eu le temps de voir. Apparemment, la presse s'y intéressait, mais si c'était un succès ou non. Et le voilà, lui aussi, avec son uniforme de lieutenant. On est dans un petit bois, là encore, du côté de Saint-Rémy. Ce sont les témoignages qui nous viennent. Car malheureusement, eh bien, avec ces hommes, ils sont pris dans une mitraille invraisemblable. Et ils s'écroulent. Disparus. Portés disparus. Il fait partie de ces gens qui sont là, basculer fantôme en une fraction de seconde et dont on perd la trace. 77 ans plus tard, quelques acharnés vont errer dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Alain Fournier. Ils y parviendront.
Mais oui, ils y sont arrivés.
Ils y sont arrivés. Et c'est comme ça que le grand Maulne a pu bénéficier d'un point d'honneur où on rappelle ce que fut la vie de cet homme emporté à 38 ans par la bravoure.
Merci messieurs pour ces formidables récits. J'aurais tellement de questions à vous poser encore. On n'a pas parlé de la guerre de position, etc. On va garder tout.
Voilà.
On va y venir à la fois prochaine.
On juste des
une petite fiche de révision rapidement pour terminer. Annoncée pour résumer l'émission. Voilà. Annoncée par une course aux armements favorisée par le jeu des alliances, la Première Guerre mondiale éclate en 1914 sous le prétexte de l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie. Au nom de l'union sacrée, des millions de jeunes Français se précipitent sous les drapeaux et partent pour des combats que l'on imagine brefs et glorieux. Et dernier point, sur la Marne, le général Joffre arrête de justesse la poussée allemande commandée par von Moltke.
Von Moltke, oui.
Le front s'immobilise de la mer du Nord à la Suisse. Ce sera bientôt la guerre de position. Deux livres pour terminer. Marc Menant, Maurice Genevoix.
Ben oui, ceux de 14 avec Maurice Genevoix. Oui, il y a une plume, c'est du classicisme, mais vous êtes profondément touché.
Merveilleux auteur, oui. Maurice Genevoix.
Formidable. Et là, vous comprenez ce qui se joue. Mais ayez la curiosité aussi de ce Céline, Le voyage au bout de la nuit, toutes les premières pages.
Et Franck Ferrand.
Et moi, c'est 1914 de Jean-Yves Le Naour qui raconte cette année tout à fait exceptionnelle dans l'histoire, non seulement de la France, mais de l'humanité.
Merci de nous avoir plongé dans cette page sombre de l'histoire. La semaine prochaine, la Grande Guerre.
Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.